Je vous invite à tourner votre Bible dans Luc chapitre 23, versets 26 à 31. Nous allons le lire ensemble ce passage. Comme il l'emmenait, il prit un certain Simon de Cyrène qui revenait des champs et il le chargea de la croix pour qu'il la porte derrière Jésus. Il était suivi d'une grande multitude des gens du peuple et de femmes qui se frappaient la poitrine et se lamentaient sur lui. Jésus se tourna vers elle et dit, « Fille de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous et sur vos enfants. Car voici des jours viendront où l'on dira, « Heureuses les stériles, heureuses les entrailles qui n'ont point enfanté et les mamelles qui n'ont point allaité. » Alors ils se mettront à dire aux montagnes, « Tombez sur nous et aux collines, couvrez-nous !» Car si l'on fait ces choses au bois vert, qu'arrivera-t-il au bois sec ? Vous savez, parmi les quatre évangélistes, Luc est le seul qui s'est intéressé à cette conversation de Jésus avec les femmes qui se frappaient la poitrine et qui se lamentaient sur lui. Intéressant de souligner qu'il s'agit des femmes de Jérusalem, parce que Jésus l'appelle ici les filles de Jérusalem, parce que, n'oublions pas, il y a d'autres femmes qui ont suivi Jésus depuis la Galilée. Vous pouvez lire dans Luc 23, 49, 55 à 56. Et donc, il s'agit des femmes de Jérusalem. Ce matin, je vous invite, imaginons que nous étions dans la foule. Il était approximativement 9h du matin ce vendredi. Sur le chemin qui menait au lieu de la crucifixion, les soldats ont obligé un certain Simon de Cyrène, il vient de l'Afrique du Nord, à porter la croix. Il faut savoir qu'à l'époque, les condamnés à mort étaient contraints de porter une poutre de leur croix. Et vous savez, ça pèse entre 14 et 18 kilos. Et il faut qu'ils l'amènent jusqu'au lieu d'exécution. Donc une foule de gens qui avaient de la sympathie pour Jésus le suivaient. Et il y avait parmi la foule ces femmes de Jérusalem qui se lamentaient sur lui alors qu'on l'amenait pour être crucifié sur la croix. Et alors, donc s'adressant aux femmes qui se lamentaient sur lui, Jésus déclare à ses filles de Jérusalem de ne pas avoir pitié de lui, mais plutôt d'elles-mêmes. Et ce que j'ai quelque chose qui me frappait, n'oublions pas que Jésus est en route vers Golgotha et comment ça se fait que les soldats romains qui sont impitoyables, les foules qui sont hostiles à Jésus, et là, ils leur laissent, surtout les soldats romains, à Jésus de s'arrêter et de faire ce discours envers ces femmes qui se lamentaient sur lui. Toujours est-il que le Seigneur donne deux enseignements dans ce discours. D'abord, nous allons voir quand il dit pleurer sur lui. Pourquoi ne pas pleurer sur lui? Ça, c'est la première chose. Et deuxième chose à voir, pourquoi pleurer sur nous-mêmes et sur nos enfants? Ça, c'est le deux points que Jésus veut les amener à considérer. Et c'est ce que nous allons faire maintenant. Nous commençons par la première question. Pourquoi ne pas pleurer sur lui? Pourquoi ne devions-nous pas pleurer sur le Seigneur souffrant et crucifié sur la croix? Pourquoi ne devions-nous pas pleurer sur le Seigneur battu, meurtri injustement? Pourquoi ne devions-nous pas verser des larmes sur celui qui a fait tant de miracles, de bonnes œuvres, et qui maintenant est rejeté de tous? J'aime beaucoup ce que dit ce célèbre prédicateur britannique, Spurgeon, au milieu du 19e siècle, il a dit ceci, « Pleurer sur les souffrances et la crucifixion de notre Sauveur revient à pleurer sur la lame du chirurgien. Pleurer sur le Sauveur crucifié revient à se lamenter sur le remède. » Oui, pleurer sur le Sauveur crucifié signifie que nous n'avons pas compris ce qu'il est en train de faire, d'accomplir sur la croix. pleurer sur le Sauveur crucifié revient à refuser son œuvre de salut pour nous. Et vous savez, les larmes ne sont pas des signes de spiritualité. C'est vrai, Dieu a créé les larmes et elles sont une chose merveilleuse. Nous pleurons pour évacuer notre tristesse ou pour exprimer nos émotions, mais les larmes uniquement sont superficielles. Il faut l'admettre. Ici, les larmes d'émotion versées à cause de la souffrance extérieure que nous voyons de Christ sont vite essuyées et oubliées et on passe à autre chose. Il n'y a eu aucune œuvre agissante du Saint-Esprit, de la grâce de Dieu dans le cœur. Et le danger de cela, c'est que c'est souvent trompeur. Il n'y a que les émotions qui sont impliquées. Vous savez, les larmes extérieures ne sont pas les signes d'un changement, d'une conversion intérieure ou d'une véritable nouvelle naissance. La véritable nouvelle naissance, c'est un acte de foi en Jésus et de repentance qui implique tout notre être, l'intelligence, la volonté et le cœur. Et c'est important de considérer ce que Paul, en se séparant des anciens d'Éphèse, après leur avoir enseigné, il leur dit pour une dernière fois le passage dans Actes 20, verset 21, annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus. Les larmes, automatiquement, ne nous conduisent pas à la repentance envers Dieu, ni à la foi en Seigneur Jésus. Ici, donc, nous considérons ces deux choses. La repentance, qu'est-ce que c'est? Vous savez, c'est un mot qui disparaît du dictionnaire, si je ne me trompe pas. Et dans les nouvelles versions de la Bible, actuellement, vous ne voyez plus le mot repentance. C'est ça la réalité. Mais la repentance est un changement de pensée en ce qui concerne le péché. Ça veut dire qu'il y a une prise de conscience du péché et une prise de position contre le péché. Et ce changement de pensée amène à un changement radical de vie qui se manifeste dans l'attitude, dans le comportement, la conduite. On pourrait résumer que la repentance se voit par une nouvelle direction de vie, par un changement de comportement provoqué par un changement de pensée. Et pour illustrer cela, 1 Thessaloniciens chapitre 1 verset 9, où ici en parlant de ces chrétiens de Thessalonique, Paul considère qu'ils sont des modèles pour les autres croyants de la Macédoine et d'Achaïe, à cause de leur fidélité malgré la souffrance de la persécution. Il leur dit, on raconte comment vous vous êtes tournés vers Dieu, en vous détournant des idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Vous voyez, tourner vers Dieu, c'est quelque chose qui n'était jamais avant, et ça oblige de se détourner des idoles dans lesquelles ils se sont voués depuis dans leur vie. Et ça se traduit par leur comportement, ils servent le Dieu vivant et vrai. Un exemple, je dirais négatif, pour illustrer aussi la repentance, c'est ce qui s'est passé lors du temps de Jean-Baptiste. Il y a beaucoup de personnes qui sont venues pour se faire baptiser par lui. Et je dirais ce qui manquait à la fausse repentance des pharisiens devant Jean-Baptiste, c'était ce changement de pensée qui conduit à un changement radical de vie. Pourquoi? Parce que Jésus reproche, et Jean reproche, voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et sadducéens, il leur dit, c'est Matthieu 3, versets 7 et 8, « Race de vipères qui vous a appris à fuir la colère à venir, produisez donc du fruit digne de la repentance. » Donc la repentance fait l'œuvre du Saint-Esprit qui a lieu dans nos cœurs lorsque nous nous tournions vers Jésus-Christ. Et je dirais, la foi véritable mène à la repentance. Donc la repentance découle de la foi, mais n'est pas un élément qui vient en complément de la foi. C'est les deux faces d'une même pièce. La foi véritable mène à la repentance, et la repentance découle de la foi. Et alors, qu'est-ce que c'est que la foi? Parce qu'ici, dans Actes 20, verset 21, Paul disait qu'il a proclamé aux Juifs grecs la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce que la foi? Simplement, c'est une pleine et entière confiance. C'est le moyen pour accepter le salut de Dieu comme un don gratuit. Et c'est pour cela que je mets à côté ce verset d'Éphésiens 2:8, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Vous voyez, la foi, c'est un moyen et non pas la cause de notre salut. Si c'est la cause de notre salut, c'est une œuvre. Mais c'est tout simplement le moyen pour recevoir le salut qui est un don gratuit de la part de Dieu. Ici donc, Jésus-Christ est mort à ma place sur la croix, il est ressuscité, il est le sauveur. Et donc je mets ma confiance en lui et je l'accepte en tant que le Seigneur de ma vie et mon sauveur. Et si ce n'est pas le cas pour vous encore aujourd'hui, posez-vous cette question. C'est aujourd'hui le jour du salut. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Qu'est-ce qui nous amène à considérer cela? C'est ce que nous disait Jésus. Ne pleurons pas sur les souffrances et la crucifixion de notre Seigneur pour nous, mais pleurons sur nos fautes, sur nos péchés qui ont causé cette crucifixion et qui attristent encore plus le Seigneur que ses propres souffrances. Donc c'est important de considérer ces questions, important de savoir si nos péchés, le problème qui nous sépare de Dieu est réglé. Il faut passer par la foi et la repentance. La foi en Jésus et la repentance pour pouvoir être sauvé. Maintenant, nous allons considérer maintenant la raison pour laquelle nous devons pleurer. Pourquoi nous devons pleurer et sur nous-mêmes et sur nos enfants. Dans Luc 23, verset 28, Jésus tourna vers elle et dit, « Fille de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous et sur vos enfants. » Et je vais continuer le verset 29 à 31. « Car voici les jours viendront où on dira, « Heureuse les stériles, heureuse les entrailles qui n'ont point enfanté, et les mamelles qui n'ont point allaité. » Alors ils se mettront à dire aux montagnes, « Tombez sur nous, et aux collines, couvrez-nous. » Car si l'on fait ces choses au bois vert, qu'arrivera-t-il au bois sec? Ici, Jésus, en s'adressant à ces femmes de Jérusalem, en disant pleurer sur elles-mêmes, pourquoi? Pour qu'elles réalisent le crime de leur ville, de leur peuple, aussi bien de leur propre péché. Jésus était venu pour sauver son peuple du péché parce qu'il l'aimait. Et ce dernier l'a rejeté et le crucifié. Jean 1,12 disait, il est venu chez les siens et les siens ne l'ont point reçu. Vous savez, il n'y a pas de pire souffrance sur terre que le rejet de l'amour, je dirais accompagné de mépris et de violence. C'est ce que notre Seigneur a reçu pour sa propre vie. Et donc les filles de Jérusalem sont commandées de pleurer non sur le Christ crucifié, mais sur elles-mêmes et sur leurs enfants. Sur elles-mêmes, qu'elles doivent pleurer sur leurs enfants. Pourquoi? Parce que les enfants seront les témoins et les victimes du redoutable jugement de Dieu qui va tomber sur Jérusalem quelques années plus tard, après la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Vous savez, en l'an 70, les armées du général Titus est venu et saccager Jérusalem, détruit le temple, détruit la ville et les Juifs ont été déportés. Donc c'est la punition méritée à cause de leur rejet de sa personne en tant que le sauveur. C'est le jugement de la ville de Jérusalem qui n'a pas reconnu le jour de sa visitation. Jésus disait que les souffrances et les peines qui seront infligées en ces jours seront si grandes que les femmes stériles jusque-là objet du mépris pourront s'estimer heureuses pour ne pas avoir eu d'enfants. Vous voyez, heureuses les stériles. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une ironie adressée à ces femmes juives. Parce que vous savez que pour les femmes juives, être stérile, c'est signe de malédiction de Dieu. Et pourtant, pour ce jour, qui arrivera quelques années plus tard, ils peuvent s'estimer heureux et épargnés de cela. Pourquoi? Tout simplement, nous lisons que lors du siège de Jérusalem, ça a été l'horreur. Pendant ce siège, vous imaginez, vous ne pouvez plus sortir, il n'y a plus de quoi à manger. Et les mamans furent forcées de manger leurs tout-petits, hein, morts de faim, tellement la famine était sévère. Donc vous pouvez comprendre bien pourquoi les femmes stériles étaient heureuses pour ne pas arriver jusque-là avec leur tout-petit. Les horreurs du siège de la ville par les armées du général romain Titus seront telles que les hommes même souhaiteront voir les montagnes tomber sur eux et les collines les cacher. Alors ils se mettront à dire aux montagnes, tombez sur nous et aux collines, couvrez-nous. Pourquoi? Parce que quand les Romains ont pénétré dans Jérusalem, tous ceux qui n'ont pas pu se cacher étaient exécutés sur le champ. D'où cette expression de désespoir, de dire, les montagnes tombaient sur nous et les collines cachez-nous. Et vous savez, cette expression que Jésus utilise ici au verset 30 a été empruntée dans les Écritures, dans l'Ancien Testament. Et c'est intéressant de voir le contexte de la discussion de Jésus avec les femmes et quand il donne ce rappel par rapport à un événement qui s'est passé plusieurs siècles avant, au temps de Osée. Et c'est la même expression qui est utilisée ici et Jésus ramène. Donc qu'est-ce qu'il voulait dire à ces femmes à travers cela? D'abord, quel était le contexte à l'époque d'Osée? Donc je dis que Luc 23, 30, mais alors ils se mettront à dire aux montagnes, tombez sur nous et aux collines, couvrez-nous. C'est la même expression que nous trouvons dans Osée 18. Les hauts lieux de Beth-Aven, où Israël a péché, seront détruits. Les pignes et la ronce croîtront sur leurs autels. Ils diront aux montagnes, couvrez-nous, et aux collines, tombez sur nous. Qu'est-ce qui s'était passé? Pourquoi le peuple à qui le prophète Osée s'adresse parle de telle manière? Il faut se rappeler un peu de l'histoire. À l'époque, donc, il y a un roi qui s'appelle Jéroboam II, et sous son règne, le pays était prospère. Le pays était prospère, parce que nous lisons, Israël était une ville féconde qui rendait beaucoup de fruits. Plus ses fruits étaient abondants, plus il a multiplié les autels, plus son pays était prospère, plus il embellit les statues. Il y a quelque chose qui ne colle pas. Plus il est prospère, plus les autels se multiplient. Mais les autels, pour qui? Pour les divinités du Baal. Donc il y a quelque chose qui ne colle pas, que cette bonne fortune a été un piège pour le peuple parce que les chefs l'attribuent aux idoles de Baal et non pas à l'Éternel. Et vous voyez, et Osée en 2.10, nous lisons, elle n'a pas reconnu. Ici, si vous lisez, le prophète était suggéré par la parole de Dieu de mimer une situation ou vivre une situation dans laquelle il va épouser une prostituée. D'accord? Et pour illustrer la relation que Dieu avait avec son peuple, cet abandon de Dieu, c'est comme une femme qui abandonne son mari. Et c'est d'elle qu'on parle ici. Elle n'a pas reconnu que c'était moi qui lui donnais le blé, le mou et l'huile, et l'on l'a consacré au service de Baal, l'argent et l'or que je lui prodiguais. Donc ici, n'oubliez pas, si vous lisez aussi, que le dieu Baal, à l'époque, c'était considéré comme le dieu de la fertilité. Et c'est le dieu de la pluie et du vent. Donc pour obtenir de bonnes récoltes, le peuple d'Israël était tenté de demander l'aide de Baal. Vous voyez la logique? Donc ici, l'Éternel leur reprend par le biais du prophète Osée, pour cela qu'il s'exclame que c'était moi, c'est Dieu qui parle, qui lui donnait le blé, le mou et l'huile, et l'on a consacré au service de Baal l'argent et l'or que je lui prodiguais. Et nous lisons qu'il choyait le dieu Baal comme étant celui qui accordait la prospérité. Plus son pays prospère, plus il embellit ses statues. Donc vous voyez, ici 10.1. Donc il s'est détourné de Dieu par l'idolâtrie. Et nous lisons Osée 10.2, le cœur est partagé, parlons de son peuple, ils vont porter la peine. L'Éternel renversera leurs autels et détruira leurs statues. Et continue le livre d'Osée, les habitants de Samarie seront consternés, elle sera transportée en Assyrie. Donc ici, nous comprendrons mieux maintenant la situation que Jésus a en tête pour parler de Jérusalem par le biais de ses femmes. Vous voyez le même contexte? Un abandon de Dieu, voire l'idolâtrie pour le royaume du Nord, et pour le peuple de Jésus, ces femmes et cette foule qui suivaient, c'est un abandon du Messie, le rejet du Messie pour le crucifier. Même situation, n'est-ce pas? Et alors, les conséquences, c'est clair. Les Juifs, ils sont des peuples enseignés dans la parole de Dieu. Ils connaissent les Écritures. Et quand Dieu a parlé plusieurs siècles avant à Moïse que si vous vous détournez vers les idoles, vous serez punis. Ils le savent. Et c'est pour cela qu'Osée leur rappelle ce qu'a dit Moïse. Vous serez transportés dans le pays de celui qui vient dans le pays pour prendre le pays. Et ça, c'est dans Deutéronome 8, verset 19 à 20. Je vous invite à le lire, ces passages. Donc ici, le peuple était éclairé. Ils savaient ce qu'ils font. Et maintenant, ils subissent les conséquences inévitables. Les conséquences, nous lisons dans Deutéronome 8, 19, 20. Si tu oublies l'Éternel, ton Dieu, et que tu ailles après d'autres dieux. C'est ce que nous lisons le rapport d'Osée. Si tu le sers et te prosternes devant eux, je vous déclare formellement aujourd'hui que vous périrez. Verset 20, vous périrez comme les nations que l'Éternel fait périr devant vous, parce que vous n'aurez point écouté la voix de l'Éternel, votre Dieu. Je vous invite aussi à lire les conséquences de la désobéissance que Dieu a dit clairement à Moïse dans Lévitique 26. Nous prenons juste le 26-23. Mais Lévitique 26, vous pouvez lire en entier. Je vous disperserai parmi les nations, et je tirerai l'épée après vous. Votre pays sera dévasté et vos villes seront désertes. Et c'est ce qui est arrivé en l'an 70 pour la ville de Jérusalem, pour les Juifs, déportés, tout détruit, le temple détruit, la ville détruite. Et Jésus même disait, il n'y aura pas pierre sur pierre qui restera. Et ça a été arrivé. Donc vous voyez la similarité de l'exemple, pourquoi Jésus citait Osée, parce qu'il veut nous faire rappeler à ces femmes le contexte de ce qui s'est passé à l'époque, le rejet de Dieu pour l'idolâtrie, et ici c'est le rejet du Messie qui est venu pour les sauver. Alors, en d'autres mots ici donc, quelle est la solution quand on est devant de tels problèmes? Le jugement est inévitable. Alors, ce qui me frappe dans le livre Osée, c'est de Osée, tout en continuant d'avertir les Israélites des calamités qui les attendaient, il leur dit que quand un peuple se trouve dans une telle situation d'abandon de Dieu, il ne reste qu'une seule solution. Et c'est ce que nous lisons dans Osée 10, versets 12 à 13. Il ne reste qu'une seule solution, il n'en a pas mille. Et Osée reprend son peuple, disant, « Semez selon la justice, moissonnez selon la miséricorde, ou, dans d'autres traductions, grâce. Défrichez-vous un champ nouveau, il est temps de chercher l'Éternel jusqu'à ce qu'il vienne, et répandre pour vous la justice. » Vous avez cultivé le mal, moissonné l'iniquité, mangé le fruit du mensonge, car tu as eu confiance dans ta voix, dans le nombre de tes vaillants hommes. En d'autres mots, qu'est-ce que dit clairement Osée ici? En d'autres mots, repentez-vous et tournez-vous vers Dieu. Et vous savez, cette exhortation s'adresse non pas seulement aux Juifs du royaume du Nord à l'époque d'Osée, ni seulement aux Juifs à l'époque de Jésus, mais aussi à nous aujourd'hui. Et quel est l'argument qu'il utilise dans ce passage ici? Est-ce que vous avez mal remarqué, j'ai souligné, semez, vous récoltez, semez, vous récoltez, ou cultivez, vous moissonnez. Donc il va utiliser un principe du gouvernement de Dieu, c'est que Dieu nous fait comprendre par sa parole que chacun de nous, on sème quelque chose, mais on récoltera le fruit de ce que nous avons semé. Et ici, vous voyez, il va citer dans ce principe de semence et récolte sous deux aspects. Le premier aspect, je dirais, négatif, cultiver le mal. Verset 13, si vous cultivez le mal, vous mentionnez l'iniquité. Et donc, si vous cultivez le mal, ça c'est les négatifs, vous mentionnez l'iniquité. Ah donc, il est temps de stopper tout ça, il est temps de chercher l'Éternel, c'est ce qu'il est dit. Et donc, l'exemple positif à faire maintenant, c'est de semer selon la justice, et vous allez moissonner selon la miséricorde. Oui, tout homme, homme, grand H, est ici-bas un semeur. Vous pouvez être jeune, vous pouvez être adulte, vous pouvez être senior, mais vous êtes un semeur. Et qui doit récolter au temps de la moisson, c'est-à-dire quand le Seigneur viendra pour juger les vivants et les morts. Paul nous rappelle, dans Galates 6, versets 7 et 8, « Ce qu'un homme sème, il le moissonnera aussi, parce que celui qui sème pour sa chair, moissonnera de la chair la corruption, et celui qui sème pour l'esprit, moissonnera de l'esprit la vie éternelle. » Posons la question. Et cela, c'est ça que doit nous interpeller ce matin en entendant ce que Jésus dit à ces femmes. Chacun de nous doit se demander, « Moi, qu'est-ce que je sème maintenant dans ma vie ?» Chaque fois que je me lève, quelle est ma première préoccupation pour semer quoi? Et quelle sera ma récolte? Peut-être ce matin, quelqu'un désire de savoir ce qu'il doit faire pour récolter la vie éternelle. Défrichez-vous un champ nouveau. Il est temps de chercher l'éternel jusqu'à ce qu'il vienne et répande pour vous la justice. Ici, c'est un peu imagé, défrichez la terre dure de votre cœur tortueux et pécheur. Par reconnaître vos péchés et ouvrant vos cœurs au pardon de Dieu et à la foi en Jésus-Christ. Je dirais, cherchez l'Éternel et invoquez-le. N'attendons pas le jour du jugement, ça sera trop tard. Réclamez sa grâce, il vous accorde sa justice qu'il vous réclame, mais que vous n'avez pas. Cette justice que Dieu seul l'a, il peut vous l'accorder en Jésus-Christ. Il devient votre justice. Et vous pouvez être déclaré juste, et vous pouvez tenir debout devant la présence de Dieu, être couvert par la justice de Jésus-Christ. C'est ce qu'il donne. Maintenant, qu'est-ce qu'il vous reste à faire quand les conséquences sont inévitables? Deuxième argument, maintenant revenons à ce que dit Jésus. Car si l'on fait ces choses au bois vert, qu'arrivera-t-il au bois sec? Là encore, d'où vient cette expression? Jésus fait allusion à des choses qui ont été dites dans le passé, dans l'Ancien Testament. Et je vous invite chez vous de regarder, hein, on le trouve, ce que je veux vous montrer, juste Ésaïe, Ézéchiel 17, 24, aujourd'hui. Vous pouvez regarder Ézéchiel 21, 3 à 4, où cette expression, si on fait ces choses au bois vert, ou arbre vert, ou sec, qu'arrive-t-il au bois sec? Donc Jésus, dans sa pensée, fait appel à l'Écriture qu'il connaît très bien. Et il va citer ce qui est dit dans Ézéchiel en s'adressant à ces femmes à quelles il a pu discuter pendant quelque temps avant d'aller sur la croix. Et nous lisons Ézéchiel 17, verset 24. « Tous les arbres des champs sauront que moi, l'Éternel, j'ai abaissé l'arbre qui s'est levé, et élevé l'arbre qui était abaissé, et que j'ai desséché l'arbre vert, et fait reverdir l'arbre sec. Moi, Éternel, j'ai parlé et j'agirai. » J'aimerais juste vous amener, quand on étudie la parole de Dieu, Jésus parle d'une expression qu'on ne connaît pas. Et un bon étudiant de la Bible, quand il ne comprend pas quelque chose, il va aller chercher, est-ce que c'était pas cité quelque part? Parce que vous savez, la Bible s'explique par la Bible. Et d'où il faut aller chercher là où cette expression était utilisée. Et donc c'est à l'époque d'Ézéchiel, plusieurs siècles avant. Et pour comprendre ce que Jésus dit en Luc 23, verset 30, on va s'appuyer sur le principe qui est utilisé dans Ézéchiel 17, 24. Et si on a bien compris le contexte dans lequel est cité Ézéchiel 17, 24, nous pouvons tirer le principe et appliquer sur les paroles de Jésus pour nous donner un enseignement pour nous aujourd'hui. C'est ce que nous allons faire. Ici, la question, c'est qu'un arbre, est-ce qu'il veut parler d'un arbre, littéralement parlant? Non. Ici, il ne va pas parler d'un arbre, littéralement parlant, en s'adressant à Ézéchiel ici. Il va parler plutôt d'un homme, d'une famille, d'une maison, d'une dynastie, si vous voulez. Comme on le sait, il suffit de lire le contexte. Et donc ici, quand il dit « J'ai abaissé l'arbre qui s'est élevé », donc il ne s'adresse pas à un arbre, c'est une parabole, une métaphore pour parler de quelqu'un. Et ce quelqu'un ici, il ne s'agit pas du roi de Babylone, Nebuchadnezzar, mais si vous lisez Ézéchiel 17, les passages suivants, vous allez vous rendre compte tout simplement qu'il s'adresse à un roi, le dernier roi de Juda, c'était Sédécias. Et donc, regardez bien le raisonnement. J'ai abaissé l'arbre qui s'était élevé, c'était donc la maison royale de Juda, qui était glorieuse, nous l'avons lu dans Osée 10 tout à l'heure, n'est-ce pas? Et en la personne de Sédécias, qui était le dernier roi et a baissé. Vous savez comment il a terminé sa vie? Comme il a désobéi à ce que disait le prophète Jérémie, il a été crevé les yeux. Quelle fin! Humiliation! Et ses fils étaient égorgés devant sa présence, et Nebuchadnezzar l'a amené à Babylone, les yeux crevés. J'ai abaissé l'arbre qui s'est levé. Et il est dit, élever l'arbre qui était abaissé. Vous voyez ici, il parle de cette même maison royale en la personne de Sédéjas, mais viendra un jour, cette fois-ci, dans le règne glorieux de Christ pendant 1000 ans, ça va être relevé. Il n'y aura pas de règne aussi similaire au règne de Christ pendant 1000 ans. Et donc, c'est un règne de gloire et de puissance qui arrivera par la suite. Donc vous voyez, le passage a une portée partielle, mais une portée plus longue aussi. Ça, c'est la prophétie. Et l'arbre vert que Dieu fait sécher. Et donc ça, c'est la même famille royale en la personne de Sédécias. Et comment Dieu a séché? Il lui a supprimé ses enfants. Ses enfants étaient égorgés devant lui. Il est amené, comme je vous ai dit, crever les yeux, humilié à Babylone. Donc ici, c'est tout simplement pour une manière de dire que cette famille royale a pris fin parce qu'il n'y a plus d'enfants pour succéder. Et donc, Dieu a fait sécher. Vous comprenez maintenant ce que dit Ézéchiel à propos de Sédécias? Jésus, on va l'appliquer maintenant pour ce que Jésus dit à travers Jérusalem, le peuple, et par le biais de cette discussion avec ces femmes. Alors, quelle est la signification de l'expression « car si l'on fait ces choses au bois vert, qu'arrive-t-il au bois sec ?» Donc, nous avons vu que Ézéchiel ne parlait pas d'un arbre, littéralement parlant, il parlait d'un roi, ici, dans la personne de Sédécias. Et donc, nous pouvons tirer l'application très simple, ce que dit Jésus dans son contexte. Jésus, c'est le bois vert. Hein? Sa personne et son message étaient rejetés par les autorités juives et romaines. Et le peuple juif incrédule qu'il a rejeté sur le bois sec. Le bois sec. Et on dit, car si l'on fait ces choses au bois vert, on fait ces choses, qui le ont? Le « on », c'est les autorités juives et romaines qui ont crucifié Jésus, qui ont fait ces choses. Ça devient plus clair maintenant. Jésus, le bois vert, dont sa personne et son message étaient rejetés par le peuple juif, l'autorité juive et romaine. Et le peuple juif incrédule qu'il a rejeté, c'est le bois sec. Et les autorités juives et romaines qui ont crucifié Jésus, c'est eux qui ont fait ces choses. Donc, pour ça, par cette expression, Jésus voulait dire essentiellement, s'ils, c'est-à-dire les autorités juives romaines, peuvent me traiter de la sorte, alors que je suis innocent, qu'en sera-t-il de vous quand il s'adresse à ces femmes? En effet, si des choses aussi terribles sont arrivées au bois vert, c'est Jésus ici, et le bois vert brûle difficilement, c'est-à-dire au jour de la condamnation de Jésus, comme un criminel alors qu'il était innocent. Lui, le juste, doit souffrir de la sorte pour sauver les injustes. Combien plus forte raison ceux qui le rejettent et qui refusent le salut souffriront-ils encore plus pour leur propre faute? Vous voyez, c'est clair ce qu'il est en train de dire maintenant. S'il est possible que le Seigneur lui-même, le bois vert, soit traité comme il l'est en ce jour de sa crucifixion, sous la croix de Golgotha, qu'en sera-t-il alors de l'humanité coupable, le bois sec? Oui, Jésus est venu pour apporter le salut, mais son peuple refuse de le reconnaître comme le Messie, le Sauveur. Jérusalem, en ses dirigeants, se coupe donc de Dieu. D'où l'avertissement aussi pour nous aujourd'hui, quand on vit dans le refus de Dieu, on se retrouve comme une branche coupée et qui finit par mourir. Je répète, l'avertissement est aussi pour nous. Quand on vit dans le refus de Dieu, le rejet de Dieu, on se retrouve comme une branche coupée, sec et qui finit par mourir. Je vous dis, si vous lisez le livre d'Osée, ce n'est pas ce que Dieu désire pour son peuple. Et aujourd'hui, ce n'est pas ce que Dieu désire pour nous aussi. Oui, ce n'est pas le Seigneur qui veut cela, mais c'est bien la conséquence du refus du salut et de la vie offerte par Dieu. Je dirais, cela ne laisse pas Jésus indifférent, pas plus qu'il n'est indifférent quand nous refusons sa grâce dans nos vies. J'aime toujours quand je relis ce passage, il use de patience envers vous. Il ne veut pas qu'aucun périsse, mais il veut que tous arrivent à la repentance. 2 Pierre 3:9. Voici le message pour nous, ici, à travers cet enseignement de Jésus, dans cette discussion assez courte avec ces femmes de Jérusalem. Pleurez sur vous-même parce que vos péchés ont amené Christ à la croix pour souffrir la punition que méritaient nos péchés. Ne pleurez pas sur Christ, mais sur vos enfants qui refusent de croire et qui demeurent dans le péché et sous la colère de Dieu. Jésus dit, celui qui n'obéit pas au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Chers frères et sœurs, ce passage, je trouve très riche, et c'est le seul évangéliste qui l'a porté pour nous enseigner quelque chose de si profond. Nous devons implorer la grâce de Dieu et sa miséricorde pour chacun d'entre nous pour nous amener à pleurer sur nous-mêmes, à pleurer sur notre état spirituel. Je ne sais pas en ce qui vous concerne vis-à-vis de vos relations avec Dieu. C'est vous qui le connaissez. Que Jésus ne vous reproche pas comme il disait à l'église de Laodicée, je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède, que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Faisons état et pleurons sur notre état spirituel, si tel est le cas. La voie de la repentance est toujours ouverte pour les enfants de Dieu. Nous devons implorer la grâce de Dieu, sa miséricorde pour chacun d'entre nous, pour nous amener à pleurer sur l'état de la relation, peut-être au sein de notre couple. Vous savez, l'homme est égoïste, orgueilleux, et parfois aussi le refus de soumission peut créer du désordre au sein du couple. Oh, que nous pleurons sur nous-mêmes si on est responsable de telles choses. Dieu, donne-moi la grâce de pleurer, donne cette larme pour que je reconnaisse le péché dans lequel je me trouve. Et j'ai besoin de me repentir pour remettre les choses à sa place, comme tu le souhaites. Peut-être que nous avons besoin de pleurer sur notre propre famille, où les enfants désobéissent aux parents, où le père est irritant avec ses enfants. La Bible en parle dans Éphésiens de toutes ces choses. Il est temps pour chacun de nous de pleurer, que Dieu nous accorde cette larme sincère qui nous amène à nous repentir devant lui. Pour que le Saint-Esprit nous amène au brisement, pour qu'il nous amène à la tristesse selon Dieu, pour nous amener à la repentance. Vous savez, nous connaîtrons la tristesse selon Dieu lorsque nous nous concentrerons sur la véritable nature du péché. Le péché, n'oublions jamais, c'est une offense envers Dieu, d'abord, plutôt que quelque chose qui nous culpabilise. Parce que le péché est une offense et un affront contre la sainteté de Dieu. Et la bonne chose qui puisse nous arriver par l'œuvre du Saint-Esprit, que nous puissions nous attarder sur la véritable nature du péché qui nous conduit à la tristesse selon Dieu, qui à son tour nous conduit à la repentance. Chers frères et sœurs, que Dieu nous ouvre les yeux pour reconnaître notre état de péché et qu'il nous accorde par son Saint-Esprit le don des larmes. Vous savez, j'ai appris quelque chose. Je ne comprenais pas que mes yeux, ça pique, ça sèche, ça gratte. Et j'ai appris quelque chose de l'ophtalmo, qu'à partir d'un certain âge, il n'y a plus les larmes. Et donc il faut des produits pour remplacer les fonctions que faisaient les larmes à partir d'un certain âge. Que Dieu nous accorde métaphoriquement le don des larmes, celle d'une vraie tristesse selon Dieu, pour pleurer sur notre état de pécheur. Je suis perdu, misérable que je suis. Dieu vienne à mon secours. Et le don de la repentance et de la foi en Jésus-Christ.